Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Et nous avons un commissaire invité ce matin pour faire un débat encore plus large. Notre ami Gildor Roy. Gildor, bienvenue.
Merci.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Le sujet de discussion ce matin, l'immigration. Il y a d'ailleurs un article sur le bilan démographique du Québec 2024 qui est dans la presse de ce matin qui dit que l'immigration globale, là, sous toutes ses formes, a donné un coup de frein au vieillissement de la population du Québec. Pourquoi tu voulais parler de ça?
Parce que je cherchais un sujet qui mettrait la bisbille. Non, parce que la semaine passée, mon cousin Jacques Prou de Val-d'Or est venu à Vaudreuil. Et on a mangé ensemble. Et Jacques avait pris sa retraite. Jacques, c'est un ancien contremaître de mine. C'est un gars de mine de carrière. Là, il avait pris sa retraite il y a 2 ans, à 60 ans. Et ils l'ont rappelé cette année parce qu'il n'y a personne qui veut travailler dans les mines. Et là, il me racontait ce que les mines étaient prêtes à offrir aux travailleurs. Là. C'est le 2 semaines de travail, 2 semaines de vacances, le vol, le transport Montréal-Val-d'Or inclus, logé, nourri, 48$ en commençant. Tu sais, une pas payée job, là. Pas trop forçante. Mais ils sont pas capables. Ils sont pas capables de trouver des travailleurs. Donc, ils importent des travailleurs. Et ils en importent tellement qu'à Val-d'Or, il y a une forte communauté maghrébine. À tel point qu'il y a une ligue de soccer maghrébine à Val-d'Or. Ouais. Et on en est venu à parler de ça parce qu'il me disait, ouais, je parlais à mon chum, je pense que c'était Rachid, son chum marocain de Val-d'Or. Il y a une vraie communauté. L'immigration puis l'intégration, là, est réussie à Val-d'Or. Il n'y a aucun problème. Et ça m'a rappelé que moi, en 1960, quand je suis né à Cadillac, en Abitibi, le monsieur qui avait le magasin de linge, c'était un Libanais. L'épicerie, c'était un Syrien. Le bar où mes parents sont rencontrés, c'est un couple de Juifs immigrés de Russie. Le premier chum à ma mère, c'est un Polonais. Puis il n'y a jamais eu de bataille à Cadillac. Hein. C'était déjà une ville cosmopolite. Puis c'était pas tout du monde qui parlait français en arrivant au Québec. Ils ont appris en travaillant puis en étant dans la communauté. Puis hier, j'entendais le premier ministre, M. Legault, dire « Il y a 320 000 immigrants, je ne me souviens pas du chiffre. » Puis ça, là, c'est l'équivalent de Sherbrooke, puis ça, c'est l'équivalent de Québec. Fait que là on parle plus d'humain, là, on donne une idée, un dessin de la masse. Puis moi, je prédis que bientôt, il va dire « Ben ça, là, cette bande d'immigrants-là, c'est comme 3 terrains de football. » Tu sais, ça va être rendu comme ça qu'on les mesure, alors que c'est presque du cas par cas, l'immigration. Puis ça coûte cher. Mais il faut s'y mettre, parce que si on ne s'y met pas, on va disparaître. Parce que les immigrants, ils font des enfants.
Ah, ça finit bien laïus. Oui. Mais écoute, c'est ça l'immigration qu'on veut. On veut des gens qui vont dans les régions. D'ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à aller dans les régions. Il y a une mesure hier qui est sortie indiquant que les immigrants qui quittaient Montréal étaient en augmentation. C'est la même chose à Toronto, d'ailleurs, c'est lié au coût du logement. On veut ça. On veut des gens qui s'implantent, qui fondent des familles, qui jouent à ringuette, qui jouent au soccer si ça leur tente aussi.
Ben oui.
Qui fument la chicha. La chicha, cette espèce de pipe qui filtre le tabac à travers l'eau, puis qui est bien meilleur pour la santé que la cigarette. Whatever, qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais qui s'intègrent puis qui fassent partie du territoire. Et puis même en gardant leur... Parce que vous savez que les immigrants au Québec gardent beaucoup plus leur langue et beaucoup plus leur culture que les immigrants qui vont dans le reste de l'Amérique du Nord. Notamment les Italiens. Il y a eu des mesures sur les Italiens, les Grecs, les premières vagues d'immigrants à Toronto versus Montréal. Et les communautés sont beaucoup plus fortes ici au Québec parce qu'ils sont au sein d'une minorité majoritaire. Mmh. Alors oui à l'immigration. Ceci étant dit, non à une certaine immigration. T'as des entreprises au Québec où ce sont que des travailleurs temporaires ou une majorité d'entre travailleurs temporaires. Ils ne s'intègrent pas parce qu'ils ne sont, ils sont pas invités à s'intégrer, ils sont temporaires. Ils travaillent, on les loge, on prend tous les logements disponibles de la municipalité, on les loge, on les transporte en autobus, s'en va en usine. Ils ne parlent que l'anglais quand ils le baragouinent. Après ça, ils font quoi? Ils envoient l'argent chez eux parce qu'on les comprend d'envoyer l'argent chez eux. Là, cet argent était nécessaire dans leur pays. Puis après, ils repartent chez eux le plus vite possible. Pourquoi? Parce que c'est pas vivable d'être juste une force de travail, de ne pas faire partie d'une communauté, de ne pas faire partie d'une famille. Alors, cette immigration-là, bien, elle, il faut la ralentir, puis c'est pas évident.
Bien, merci à toi, Gildard, pour ce plaidoyer en faveur de l'immigration. Moi, j'apprends ça, là, ce matin, qu'il y a une communauté maghrébine à Val-d'Or, puis une équipe de soccer. mais je disais à Gildard, avant d'entrer en onde, qu'il y a une collaboration entre le secteur minier marocain et québécois. Ouais. Il y a des missions qui ont été organisées. C'est peut-être ce qui explique cela. Oui, à un plaidoyer en faveur de l'immigration, mais encore faut-il déterminer ce qu'on attend de l'immigration. Parce que, de tout temps, l'immigration a servi de bouc émissaire. On a décrit les immigrants comme des voleurs de job. Aujourd'hui, puis il y a une exception, c'est durant la pandémie. On a qualifié nos immigrants de travailleurs essentiels, d'anges gardiens. Mais là encore, aujourd'hui, le gouvernement a dit le français est en déclin, c'est la faute de l'immigration. Il manque de logement, la crise du logement, se déploie dans tout le Québec, c'est à cause de l'immigration. Mais on ne s'est jamais questionné comme société sur notre vision de l'immigration, comment on veut, quel type d'immigration on veut. On a souvent qualifié l'immigration d'économique, mais notre projet de société avec l'immigration, c'est quoi? Puis on a intérêt à se poser la question, parce que tu le dis bien, si on n'organise pas mieux l'immigration, bien, on va mourir, parce que sur le plan de la natalité, on ne fait pas assez d'enfants, puis les immigrants, eux, en font. Mais que les politiques continuent de peindre l'immigration comme étant un problème, moi, personnellement, ça me fatigue. Puis tu l'as dit, Gildard, tu as référé quand tu dis on parle de l'immigration souvent comme des statistiques, comme de chiffres, d'une masse, alors que c'est tellement plus nuancé que ça dans réalité. Ta conjointe est dominicaine.
Il y a 30 ans, elle est arrivée, elle ne parlait pas un mot de français. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les COFI, qui était un cours de français obligatoire. Tu étais obligé de suivre ce cours-là, sinon ils t'enlevaient ta résidence, tu sais. Bien, après 6 mois, ma femme parlait français. Fait qu'il faut prendre les moyens pour aussi, puis leur donner l'occasion de le faire. À la maison, elle parle espagnol, elle parle français aussi. Elle va toujours parler français. Elle est québécoise. Mais elle a gardé sa culture, parce qu'au Québec, on leur permet de faire ça.
Écoutez, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, je ne pense pas que la politique, c'est la gestion des individus. Oui, il faut les prendre en considération. Moi, mon père, il est né au Maroc. Il s'appelle Ferrandez, d'une famille espagnole qui avait d'abord voyagé par l'Algérie, des travailleurs, des gros travailleurs. Toute sa famille est retournée dans le sud de la France. Lui est venu ici au Canada. L'immigration, je connais. Il s'est entouré d'énormément d'immigrants. Ma vie, ceux qu'on appelait mes oncles, mes tantes, c'était des immigrants. D'ailleurs, il y en a qui repartaient parce qu'ils n'aimaient pas ça ici, puis ils revenaient, puis après, c'est mieux là-bas, puis c'est mieux ici, puis ils étaient tout le temps dans l'avion, finalement. Puis donc, je connais ça. Sauf que toutes ces histoires-là sont attachantes. Toutes ces histoires-là sont touchantes. Mais quand tu fais de la politique, tu gères des chiffres. Puis des chiffres, ça te dit qu'il y a une partie des immigrants qui posent problème. Pas les immigrants eux-mêmes, pas Antoine Ferrandez. Antoine Ferrandez ne pose pas problème. Il est arrivé ici 2 jours après, il y avait une pancarte du Québec français dans les mains. Il était là, il a défendu le Saint-Léonard français, après ça, McGill français, après ça, contre la loi 22, après ça, pour la loi Sarre. Moi, j'ai passé ma vie dans un petit forum de défense de langue française.
OK? C'est sacré.
C'est ça. Donc, tu as passé ta vie où?
Au Centre Paul Sauvé. Okay. Écoutez, Gilles Vigneault. Donc, M. Ferrandez est bienvenu. Mais il faut regarder les chiffres. Il faut se poser la question de savoir est-ce que globalement, il y a des situations où ça ne va pas?
Mais tu mets la faute sur qui? Sur l'immigration?
Moi, je ne mets évidemment pas.
Sur les gouvernements?
Sur notre incapacité de regarder et de planifier des développements en se disant, OK, là, on est rendu à 10 000, on est rendu à... Le plateau Mont-Royal, je connais des gens personnellement qui louent leur logement à une agence 4 000 $ par mois. Cette agence-là le reloue à un employé d'Airbus ou à un employé d'Ubisoft. Quand t'en as 1, 2, 4, 10, pas grave. Quand t'en as 10 000, commence à un méchant problème de logement. Pareil pour l'intégration à la langue française. Ce matin, il y avait un article dans les journaux Presque toutes les fast-foods en région engagent des temporaires, même pas des immigrants. Pourquoi? Personne ne veut faire ça. Pourquoi? Parce que le salaire n'est pas bon. Moi, je dis, si tu n'es pas capable d'employer une personne qui serait capable de s'intégrer dans la communauté, c'est-à-dire se payer une maison, avoir une famille, aller à l'école puis se développer, ben ferme-la ta maudite business.
Ben là, c'est facile à dire.
Oui, c'est facile.
C'est très facile. Parce qu'en passant, le travailleur temporaire qui vient des Philippines, il dit, moi, ce que je gagne ici au salaire minimum, c'est 3 fois plus que ce que je gagnais aux Philippines. La possibilité ici, pour moi, là, de refaire ma vie est pas mal plus emballante que si je continuais de vivre, si je choisissais de vivre
individuellement pour cette personne-là, c'est parfait.
Oui, tout à fait.
Mais le chiffre, c'est quoi le chiffre? C'est la capacité d'intégration des gens qui vont rester, par exemple, à Bécomo à long terme, c'est quoi? Là? Ou à Port-Cartier à long terme.
Comment t'expliques à travers le monde, particulièrement en Europe, ce qui mobilise les partis politiques, le thème commun, c'est l'anti-immigration? T'sais, je regardais là, la France, on s'entend que le ralliement national est en hausse, va probablement, même si c'est symbolique plus qu'autre chose, remporter les élections européennes. Je regarde ce qui se passe en Italie, je regarde ce qui se passe...
Mais Paul, c'est pour ça que la part de Gildor Roy ce matin est extrêmement importante et celle de celui de Nathalie Normandeau qui frappe sur ce clou souvent aussi très, très important. C'est-à-dire, faut regarder les humains. Faut que derrière ça, faut arrêter les peurs. Faut voir qu'il y a des histoires formidables d'immigration maghrébine à Rouyn-Noranda. Faut le voir, faut le regarder. Faut dire aux gens, arrêtez d'avoir peur. Mais l'État doit quand même gérer des chiffres.
Oui, bien, personne n'est contre ça ce matin. Non seulement l'État gère des chiffres, mais elle établit des politiques. Mais là, ce qui manque au Québec, c'est la vision. Parce que, tu sais, on a toujours géré en fonction du seuil, par exemple. Combien d'immigrants on a? 50 000, 30 000, 40 000, 35 000. Le PQ dit, ben non, ça prend 35 000. La CAQ dit, ben là, 50 000. Le PLQ dit 70 000. Là, on est là, puis on s'obstine sur le bon chiffre. Mais je pense que ça va au-delà du chiffre. Notre société a complètement changé depuis la pandémie. Sur 220 000 immigrants en 2023, il y a 170 000 travailleurs temporaires. Notre marché de l'emploi s'est complètement transformé. Alors, comment on tient compte de cette réalité dans notre vision de l'immigration? Les travailleurs temporaires qui vont, par exemple, qui travaillent à Val-d'Or, dans le secteur minier, ou ceux qui travaillent dans les fast-food, quelle opportunité on leur donne de faire leur vie au Québec, de s'intégrer au Québec? Là, Luc, on n'a pas le choix, on se tourne vers le gouvernement, puis on dit, oh, mais écoute, est-ce qu'ils ont la possibilité d'obtenir une résidence, si tel est leur souhait?
Mais est-ce que le gouvernement ne pourrait pas légiférer justement pour intervenir auprès de ces entreprises-là qui profitent de ces travailleurs temporaires-là, de leur dire, bien,
dans tous les sens du terme.
Si tu veux avoir du cheap labor d'immigration, parce qu'il y a ça aussi là-dedans, bien, tu vas être obligé de participer à leur intégration. Fait que temporaire, là, ça ne fonctionne plus, ça. C'est une job ou c'est pas une job?
Moi, je suis d'accord. On augmente les seuils d'immigration.
Comme le gouvernement pourrait légiférer pour empêcher les compagnies étrangères d'acheter 10 000 condos puis de faire. T'sais.
Oui, mais moi, je suis d'accord avec ça. On augmente la vraie immigration, on baisse l'immigration temporaire. Oui.
Ouais, mais pour ça, par exemple, les travailleurs temporaires, prenons dans le domaine agricole, ils ont des permis fermés. Alors, ils sont à la merci de leur employeur. Et c'est épouvantable, les conditions de travail souvent de ces pauvres travailleurs.
Avez-vous vu le film Richelieu?
Non.
Voyez-le, ça, c'est de ça que ça parle.
Oui, exactement. Et un autre documentaire essentiel qui est passé sur à Télé-Québec il y a quelques années, là, 2 ans, je pense, peut-être même l'année passée. Et là, on pose des vraies questions.
Mais je prends l'exemple de cette étudiante haïtienne qui est à Montréal, qui est en maîtrise d'administration. Elle travaille en plein, puis elle étudie à temps plein. Là, le fédéral a décidé de couper à 20 heures semaine le travail. Tu te dis, mais pourquoi? Son employeur nous écrit en disant, j'ai besoin d'elle, elle est prête à faire les deux. Elle a budgété pour son logement, la facture de ses études, un job à temps plein. Puis là, soudainement, on dit non. Tu vas travailler 20 heures. Puis dans certains cas, parce le 20 heures n'est pas nécessaire, puis on se retrouve avec des gens qui perdent leur emploi.
Oui, moi, je pense qu'il faut faire du cas par cas. Il y a eu cette famille française aussi qui travaille dans le domaine de la santé, qu'on a voulu isoler, qu'on a voulu renvoyer. Dans certains cas, il faut avoir la souplesse de regarder des cas. Mais pourquoi cette règle-là existe du 20 heures?
Des faux étudiants.
Ben voilà, à chaque fois qu'il y a une règle bureaucratique stupide, c'est parce qu'en arrière, il y a eu un geste stupide qu'on essaie de contrer.
Oui, mais il y a d'autres moyens de trouver les faux étudiants que de pénaliser ceux qui travaillent puis qui font la vrai job d'étudiant.
Mais moi, je pense que si tu as un témoignage de des gens de sa communauté qui dit, regarde, là, tu sais, le député, le maire, le seul employeur, les voisins, check. Ça, là, nous autres, on se porte garant. Parce que moi, j'ai fait ça, hein, j'ai fait ça comme maire. J'ai fait ça comme maire, écrire une lettre en disant, hey, wow, hey, ça n'a pas d'allure. Sauf que cette règle-là, on comprend pourquoi elle existe.
Oui. mais elle est appliquée bêtement.
Elle est appliquée bêtement.
Oui, voilà. Voilà.
As-tu d'autres choses à ajouter?
Dans votre bande là, d'amis de votre père, Marie, avez-vous déjà entendu un immigrant dire « Moi, là, j'ai juste hâte de travailler mes 22 semaines puis de me mettre sur le chômage. » C'est des
non.
concepts qui n'existent pas.
Exactement.
Ça existe. J'ai jamais entendu un immigrant.
Te rappelles-tu du monologue de Mongrain là-dessus, sur les Italiens?
Non.
Jean-Luc Mongrain?
Ah, c'est quelque chose. C'est un morceau du patrimoine.
Ah, oui, non, oui, je connais oui. pas ça.
Il dit qu'il y avait deux frères, il y avait deux Italiens qui ont acheté l'immeuble. Ils ont commencé par ouvrir une pizzeria, puis il n'y a pas d'argent pour se trouver un logement. Fait qu'ils habitaient ensemble dans le restaurant. Puis tout le monde disait, c'est des tapettes, c'est des maudits, puis c'est des... Puis lui, il habitait dans l'immeuble. Puis à un moment donné, il a acheté l'immeuble. Lui, il est devenu locataire des Italiens. Puis là, il y avait des grosses voitures, stationnées devant le commerce. Puis là, ils se sont mis à acheter d'autres triplex. Puis il raconte ça, tu sais, en disant « Maudite gang de Québécois paresseux puis racistes! » Puis ça vaut la peine de l'entendre.
Oh, je vais toujours essayer de trouver ça.
Gildard, merci beaucoup d'être venu.
Oh, hey, c'était un honneur, merci.
C'est super. Super. Nous l'honneur, voyons.
Oui, et là, on a hâte de voir ton nouveau personnage, Dumas.
Et moi donc.
Et toi donc. Le Robert De Niro du Québec.
Arrêtez,
non, non, on va t'écœurer avec ça très longtemps.
Oh.
Merci d'être venu.
Merci
à bientôt.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Écoutez dès maintenant l'épisode avec Dominique Arpin.
Fait que je me suis dit, cette journée-là, je pourrais jamais avoir plus peur que ce que j'ai vécu dans le bureau du médecin lorsqu'elle m'a dit que j'avais un cancer puis que la masse était grosse comme un pamplemousse sur mon rein.
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir.
La commission Normando-Ferrandaise.
Ah, ça va être un très bon débat. Est-ce que les syndicats de la fonction publique fédérale ont raison de s'opposer au retour au bureau de leurs membres 3 jours semaine? Nathalie?
Non, monsieur, ils n'ont absolument pas. Mon Dieu, ils voient rouge à Ottawa. Une chance que le gouvernement n'a pas imposé les 5 jours de retour au travail parce que la colline parlementaire à Ottawa serait à feu et à sang. Honnêtement, les gouvernements, les syndicats, c'est-à-dire, puis ils sont 16 qui ont décidé de faire front commun, poussent un peu trop fort sur le bouchon. Moi, j'ai une amie qui travaille au gouvernement fédéral, puis je lui ai demandé hier quelle est ton appréciation de cette exigence imposée par le gouvernement. Elle m'a dit, écoute, on est déçus. Puis là, elle parlait au nom de plusieurs de ses collègues. Elle dit, on est déçus, mais pas choqués. Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un décalage entre la déception exprimée par les employés et la réaction des syndicats. Mais tu dis, voyons, à ce que je sache, le droit de gérance existe encore pour un employeur? Je ne comprends pas cette sortie... Écoute, cette réaction qui est vive, qui est sentie de la part des syndicats, là, on passait d'une exigence de 2 jours à 3 jours. Une journée de différence, est-ce que la vie des travailleurs, des employés fédéraux va changer à ce point?
Beverly!
Non, mais honnêtement, là, je comprends que le télétravail, maintenant, ça fait partie du marché, ça fait partie de la vie des employeurs. D'ailleurs, le modèle idéal, c'est le travail hybride.
Ouais.
Hein? Tout le monde s'entend là-dessus, là, employeur-employé. Mais là, honnêtement, non, je trouve que les syndicats là-dessus, là, ils ont manqué une belle occasion de nuancer leurs propos.
C'est un coup de force. C'est vraiment un coup de force. Ils tentent de nous rentrer quelque chose dans la gorge, puis dans la gorge fédérale, avec un paquet de demi-vérités, et c'est fâchant. Par exemple, on a la preuve que ça marche. Non, non, faux, on n'a pas la preuve. On n'a aucun document qui nous dit que la productivité... Chaque fois que la productivité a été mesurée, il y a eu énormément de renvois dans chacun des ministères parce qu'il y avait des gens qui ne faisaient argent. Pas juste, pas un peu, là, argent. Puis,
c'est l'accent Beauceron, ça?
Oui, c'est ça. Moi, j'ai appelé...
Jean-Luc Mongrain.
Par ailleurs, tu regardes domaine par domaine. C'est quoi le temps d'attente en immigration pour ouvrir une demande? Puis c'est quoi pour la traiter? On parle d'années. On est rendu dans du déni de service. On ne peut pas accéder au service. J'en ai fait d'expérience. Je veux juste donner à mon comptable le droit d'ouvrir mes TP4, mes je sais pas quoi. Puis là, j'essaie d'appeler Agence Revenue du Canada. J'ai appelé 15 fois. La dame m'a appelé une première fois, après des semaines et des semaines de la demande. Et là... C'est une dame avec un accent du Nouveau-Brunswick. J'ai tenté de la rejoindre 15 fois, à 15 reprises différentes, à des jours différents, à des horaires différents. Jamais de réponse. Elle est à la pêche au flétan. C'est clair. Par ailleurs, si tu essaies de les contacter, le temps d'attente est de 1h35. Voir, toi, ça, c'est du déni de service.
Et c'est rire des citoyens.
De se faire...
Luc,
oui, la personne qui a été considérée en dernier dans cette réorganisation-là, c'est le citoyen. Le citoyen est mis comme une valeur abstraite, un être qui a 1h35 de son temps pour appeler, puis à un moment donné, ça raccroche. Fait que ça, là, c'est du déni de service. Alors, de nous dire, on a la preuve que ça marche, faux. L'autre affaire, de considérer qu'il faut que ça soit fait across the board. Parce que moi, j'ai dit au vice-président du syndicat, j'ai demandé, c'est donc un privilège de travailler à la maison puisque vous le tentez de l'avoir avec autant de force. C'est quelque chose que vous avez à cœur. Ceux qui travaillent 5 jours par semaine, est-ce que vous considérez que c'est une tâche plus lourde? Et c'est une tâche plus lourde mesurée. C'est 26 $ par jour qui est mesuré en moyenne pour les temps de déplacement, le lunch, etc. Ou des frais de garde parce que tu ne peux pas arriver à temps à la maison. 26 $ par jour, excusez-moi, par jour. Donc, sur une année complète, c'est une somme considérable. Est-ce que vous considérez qu'il devrait y avoir une rémunération différenciée pour les travailleurs? Non. On considère que tout le monde devrait avoir le droit de rester à la maison. J'ai dit, comment ça, tout le monde?
Mais tu peux pas, là.
Ben, il m'a dit oui,
ben
tout
non,
le monde.
Tu peux pas être un gardien de prison voilà, dans une prison fédérale. Tu peux pas être un douanier qui contrôle ce qui se passe à la frontière chez vous, là.
Il considère que oui, tu as du travail de dossier à faire puis que tu peux le faire à la maison.
C'est ridicule.
Alors, c'est un coup de force. C'est une tentative de réduction du temps de travail.
Mais les employés, ce que je comprends, c'est que les employés ne sont pas là où sont les syndicats. Là. Oublie ça. Là. Il y a un écart entre les deux. Et parler à un être humain, aujourd'hui, au gouvernement, c'est devenu un sport extrême. Là. C'est le parcours du combattant. Tu donnes l'exemple du fédéral. Mais à Québec aussi, il y a des ministères où c'est compliqué. Et il y a une certaine époque, moi, j'ai connu l'époque où tu appelais dans un cabinet de ministre, il y a une réceptionniste qui prenait ton appel. Aujourd'hui, quand tu appelles dans un cabinet de ministre, c'est un répondeur. Depuis la pandémie, puis ils n'ont pas rétabli là, tu sais, la gentille réceptionniste qui prenait ton appel quand tu appelais dans un cabinet de ministre. Je me dis, il me semble que ça devrait être le minimum, mais non. Mais non, on est rendu effectivement appuie sur le 1, sur le 2, sur le 3.
Puis c'est ça.
Tu reviens sur le 1.
Oui, c'est ça.
Le fameux
sketch de Michel Labrec.
Oui, non, c'est très compliqué. Alors, toi, dans ton cas, tu n'as jamais réussi à parler à la dame.
Jamais.
Est-ce que l'Agence du revenu du Canada t'a donné ton service dont tu avais besoin?
Non, je ne l'ai pas.
Fait que là, tu fais quoi comme citoyen? Tu paies des impôts malades, tu t'attends à avoir un minimum de services. Puis là, t'as les
courriels...
syndicats qui déchirent leur chemise pour dire 3 jours semaine, c'est au bureau. C'est un scandale, M. le Président.
Dans
un
l'argumentaire
scandale.
Qu'on nous sert, entre autres, là, parce qu'il y a pas mal de balmol là-dedans, là, mais dans l'argumentaire, c'est de dire c'est un vaste complot pour renflouer le transport en commun de force. Pour faire, parce que depuis la pandémie, les gens sont chez eux près de moins, de ramener le monde au centre-ville, les commerces. Tu sais, il y a comme un. Tu sais, on veut vous ramener en ville, là.
Mais crois-tu qu'il y a un lobby économique qui pousse là-dessus, toi, du côté d'Ottawa?
Il y en a qui le mentionnent. Au centre-ville notamment, oui.
Il y a un lobby qui existe pour ramener du monde.
Mais c'est pas vrai que c'est ça la cause principale, là. Ça, c'est un effet secondaire. Et dans la cause. Moi, je comprends les employés un à un, là. Tu sais, premièrement, il y a des employés qui disent je vais au travail, ça change zilch, zéro. J'arrive là, puis il faut que je travaille en team.
Écoute, moi, j'ai une amie qui va au bureau. Puis qui est en contact avec des fonctionnaires qui sont à Shawinigan, à Trois-Rivières, qu'elle soit chez elle ou bien au bureau.
Mais ça, c'est correct. Mais on a rien contre ce matin en passant le travail hybride, là. Sauf qu'on ne comprend pas, puis on exprime assez clairement notre opposition à cette sortie des syndicats. Ils sont 16. Puis là, ils ont invité tous les travailleurs à déposer des milliers de griefs. Ils veulent inonder le gouvernement de dizaines de milliers de griefs.
Ce que le syndicat veut, ce n'est pas qu'on fasse du cas par cas. C'est-à-dire, personne qui arrive au bureau puis n'a aucun contact avec ses collègues serait aussi bien à la maison.
Oui.
Ils veulent pas ça. Ils veulent que ça soit across the board. Ils veulent que ça soit pour tout le monde, que ça soit un droit acquis.
OK, je comprends ce que tu dis, mais ça marche pas. Ça, en passant, ça se négocie dans une convention collective.
Voilà.
Bon,
ils veulent pas négocier.
Oui, mais on n'est pas là, là. Là, dans le fond, nous, ce qu'on dit, c'est travail hybride parfait. Ça fait partie maintenant de la nouvelle réalité du marché du travail. Ce qu'on dénonce, c'est les réactions des syndicats par rapport au fait que le gouvernement fédéral dit « Savez-vous quoi? Ça va être 3 jours plutôt que 2 jours. » Mais là, mon Dieu, t'as l'impression que la Terre va s'arrêter de tourner.
Moi, j'ai une proposition à faire. C'est cinq jours. Puis.
On veut pas trois, on va vous donner cinq.
Voilà, cinq. En commençant par les cadres, hein, des cadres qui se sont pas montrés le nez au travail pendant des mois, hein, qui font des relations de travail à l'écran, là, en commençant par les cadres. Alors, c'est 5 jours et au cas par cas, on libère. Et même qu'on pourrait libérer les 5 jours au complet. La personne a fait du traitement de dossier, elle est super performante, a toujours été bonne, elle en fait encore plus qu'avant. Reste à la maison, ma grande. Puis là, un bonus à part de ça. Mais l'autre qui vient de commencer à travailler parce que j'ai vu ça, des gens qui commencent à travailler, qui n'ont aucune réunion pendant 3 semaines. Ils ne vont pas au bureau les 3 premières semaines. Ça a de l'air de quoi, tu penses, en intégration à l'emploi? Donc, c'est du cas par cas. C'est le contraire de ce que dit le syndicat.
Donc, c'est réglé, M. Arcan?
On va trancher pendant la pause, mais... Et n'oubliez pas que le syndicat de la fonction publique veut votre bien parce que c'est pour nous, les fonctionnaires, mais ça peut également vous toucher bientôt. Votre employeur pourrait vous imposer la même maudite affaire. N'oubliez jamais cela. C'était Jean-Luc Mongrain.
C'est 23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.